Il était comment le camping-car, Paula?
Il était gros et il passait pas vraiment dans tous les endroits.
Il passait pas dans tous les endroits?
Non.
Alors là, t'es en train de dessiner le coffre?
Non.
Tu dessines quoi là?
L'échelle.
Ah, il y avait une échelle?
Ouais, pour aller au coffre.
Et toi, t'étais où dans le camping-car, là?
J'étais en haut, sur la table.
Et tu faisais quoi sur la table?
Je jouais.
Et qu'est-ce qui conduit?
C'est toujours papa.
Est-ce que vous pouvez faire une petite liste, Marion Poussier, Laurent Krief, de ce qu'il y avait dans le camping-car?
Qu'est-ce qu'il y avait? Nos deux filles. C'était ce qui prenait le plus de place, après nous. Ensuite, il y avait des livres, plein de livres. Et puis après, il y avait aussi des grosses boîtes avec plein de pellicules photos de toutes les tailles, des plans films, des pellicules pour les appareils moyen format, des petites pellicules. Et il y avait plein d'appareils photos. Pareil, de toutes les tailles, une chambre photographique, un appareil 6-6, un appareil pour 135, un petit appareil Polaroid. Il y avait une caméra, il y avait un micro, il y avait une perche, il y avait un enregistreur, il y avait des casseroles, il y avait des boîtes à thé, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait?
De l'alcool, on a pris pas mal de bouteilles.
Il y avait de l'alcool jusqu'en Iran, après il n'y avait plus d'alcool.
On a tout bu juste à la frontière.
T'en es où là du dessin, Paula?
Je suis où il y a papa qui conduit.
Est-ce que t'as bien aimé voyager dans le camping-car?
Oui.
Qu'est-ce que t'aimais?
J'aimais bien courir dans la nature et jouer.
Et qu'est-ce que t'aimais pas?
Oh, il n'y a rien que j'aimais pas. Enfin, j'aimais pas quand je faisais la sieste. Est-ce que je fais le soleil?
Ah bah oui.
Voilà, j'ai fini.
Il est 23h et on rêve tous du grand voyage, celui qui nous ferait dire « je suis momentanément absent » avec une date retour lointaine, qui nous ferait écrire des réponses automatiques dans des messageries pour dire « en cas d'urgence, ce n'est pas moi, je ne suis plus dans l'urgence, je suis parti prendre du temps ». Vous pourriez ajouter « mais quand je rentrerai, je serai plus présent que vous, j'anticiperai tous les messages, je serai vivant ». On ne se rend pas toujours compte du moment où on ne voit plus rien, nos yeux sont brouillés, on est paradité. Il y a cette fiction quotidienne qui sort des écrans et des journaux, qui nous fait croire qu'on ne pourrait plus s'entendre dans notre pays, que l'harmonie c'est fini, qui définit chacun, qui distribue des rôles, qui incline le scénario. On dresse des murs entre nous à coups de flash info et de grands dossiers du jour. À un moment, on réalise qu'on ne voit plus rien. Marion Poussier a décidé de partir pour prendre le temps et pour revenir à zéro avec son compagnon et leurs deux filles, Bonnie, Paula, 3 ans et 6 ans. Elles sont parties avec leurs parents jusqu'en Iran. Elles y ont passé plusieurs mois. Elles ne le savent pas vraiment, mais c'était grâce à elles, ou pour elles, ou à cause. Marion Poussier a réalisé qu'elle était prise dans l'habitude, du regard et de la parole. que parfois, aux questions des enfants qui se posent pour la première fois, elle répondait par des phrases toutes faites, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de tout réinventer. Bonnie et Paula, elles, remettaient tout à plat. Quand on est enfant, on s'invente des scénarios, on va vers l'autre avant qu'on vous dise « n'accepte rien d'un étranger ». On essaie la vie. Après, on est grand et on oublie d'essayer la vie. On s'est fait une idée. On n'est pas dupe. L'air du temps est à la désinvolture. Il vaut mieux faire comme si rien ne nous atteignait. On prend des airs de « rien ne nous étonne plus ». Mais pour le bien-être du pays, heureusement certains soignent leur regard. Heureusement certains vont remettre les compteurs à zéro, regarder comme au premier jour. Ce sera ce soir une heure pour les cueillir. Marion Poussier, Laurent Krief et Paula, 6 ans, au retour du grand voyage, à la descente du camping-car. Ce sont des absents, des momentanément absents, revenus encore plus présents, plus entiers, avec des vrais yeux. Des revenants qui nous posent la question à nous, où était-on entre-temps ? Est-ce qu'on est capable d'inventer de nouvelles réponses à des questions d'enfants ? Il y aura Marion Poussier, photographe, qui après la fac de biologie a retrouvé le vieux labo photo de famille au grenier et a compris que sa vie, ça serait la photographie. Ces séries s'appellent « Un été » ou « Récréation » ou « Famille ». Il y a la vie de tous les jours et tous nos mouvements qui s'y impriment. Marion Poussier revient d'un voyage de plusieurs mois en Iran avec son compagnon, ses deux filles. Un grand voyage pour renouveler le regard et ils arrivent donc en studio en famille. Il y aura Paula, 6 ans, qui dessinait le camping-car. Marion a dit « Je ne suis pas quelqu'un qui parle ». Paula a dit « Je suis timide ». Mais on tentera de leur faire raconter. Et elles seront aidées par Laurent Krief, c'est le papa de Paula, qui en Iran a lui tourné un western. À la musique en studio, Pierce Falcini, lui, revient tout juste d'un pays imaginaire, inspiré de la Sicile médiévale, qui a nourri l'écriture de son nouvel album « I Dreamed of an Island ». Il sortira le 21 octobre. C'est une vie d'artiste sur France Culture et c'est aussi une vie de famille et une vie qui recommence à 3 ans et demi. Est-ce qu'on peut décrire la photo de Bonnie que vous avez rapportée ? C'est un Polaroid ?
Oui, c'est un petit Polaroid, donc c'est un petit format qui doit faire 6 par 8 ou 8 par 10. Ça veut dire aussi que c'est une image unique. Elle est toute nue, assise par terre, et elle a les deux mains repliées vers son visage, un peu comme si elle lisait un livre. Et elle est complètement inondée de lumière, ce qui fait qu'on voit à peine son corps, on voit le petit bout de ses pieds, on voit un peu sa tête, on devine la forme du corps, mais on ne le voit pas tellement, elle est perdue dans la lumière. Et son livre, enfin, ce qu'elle regarde, c'est comme si elle découvrait la lumière qui lui arrive dessus, en fait. Elle est complètement inondée par la lumière qui lui arrive, et c'est un peu comme si la lumière venait refléter dans le livre et le reflet lui arrivait dans la figure.
Et pourquoi c'est la première image que vous avez eu envie de montrer en rentrant ?
Je sais pas, c'était celle qui parlait le plus de justement l'origine de ce projet. Et c'était un peu comme la source, la base, quoi. Découvrir la lumière. Et puis il y avait aussi l'idée qu'en partant en voyage, on allait s'ouvrir un petit peu à l'imaginaire, et là c'est comme si elle s'engouffrait dans la porte d'entrée.
Moi je vivais dans les greniers un peu reclus, un peu avec les chats, les petits animaux forcément, les petits veaux, les petits chiens, les petits chevaux, et qui fait que j'en ai la preuve, puisque c'est presque un témoignage, que j'ai commencé à photographier ces choses-là, or que les êtres humains, j'avais très peur de les photographier. Parce que c'est pas vrai, on ne photographie pas ses parents comme ça du premier jour. On se dit pas, tiens, je veux te reporter un photographe, et on se met à photographier ses parents. Tout ça, c'est très doux, tout doux. Et j'ai commencé à photographier les gens qui étaient autour de moi. Et donc, je constate que les gens qui étaient autour de moi à cette époque-là, c'était des animaux qui vivaient dans le grenier ou autour de la ferme. Et j'ai beaucoup attendu avant de faire la première photo de mes parents. Donc ce sont plutôt des animaux qui, a priori, qu'on ne photographie pas.
C'était la voix de Raymond Depardon qui parlait de lui enfant dans le grenier, photographiant plutôt des animaux et des objets que des êtres humains. Marion Poussy, est-ce que vous vous êtes posé cette question de qu'est-ce que quand on a 3 ans ou 6 ans, on regarde, qu'est-ce qu'on a envie de regarder, comment, en écoutant vos filles ?
En les écoutant et puis en les regardant, et aussi parce que Paula, qui est la plus grande, avait un petit appareil photo entre les mains. Et donc j'ai regardé effectivement qu'est-ce qui attirait son attention et à quel moment elle venait le chercher, me le demander. Et c'était essentiellement pour enregistrer des souvenirs, je pense, des moments qui étaient importants pour elle. Elle me fait nom de la main. Tu venais me demander l'appareil photo, par exemple, quand tu t'étais fait des copines en Iran, tu voulais les photographier. Vous vous amusiez ensemble, tu voulais prendre des photos d'elle. Bien, effectivement, les animaux, ça revenait aussi souvent, les moutons, les troupeaux de moutons.
Je peux dire quelque
chose. Bien sûr, tu peux dire quelque chose.
Et en fait, je m'étais aussi fait des copains animaux. Mais c'était un petit peu dur. Et
des copains animaux? C'était quoi comme animaux?
Non, mais en fait, on avait rencontré beaucoup de petites choses qu'on les rencontrait souvent. Des petites bêtes un petit peu incroyables. Pour moi, peut-être.
Le monde des insectes les fascinait. Et d'autant plus qu'en Iran, ils sont assez surprenants.
Il y avait des moutons, des chevaux.
Marion Poussy, l'idée du grand voyage, enfin de partir, est-ce que ça a été provoqué par les filles ou est-ce que c'était déjà présent à travers dans le travail en se disant il faut que je renouvelle ce regard?
C'était présent depuis un moment, l'envie de partir avant même que Paula naisse. Et puis ça s'est, avec justement la vie qui passe, ça s'est poussé, repoussé, redécalé. Et je pense que l'envie est redevenue très forte peu de temps avant qu'on décide vraiment de partir, parce que justement tout allait, oui, un peu vite, il y avait besoin de s'arrêter.
Parce que c'est quoi une habitude de regard?
C'est partir sur un nouveau projet et le photographier de la même manière. C'est, je pense que c'est un sentiment dont on n'est pas forcément conscient, mais c'est aussi prendre moins de plaisir à faire ce qu'on fait. Et je pense qu'on en a conscience plus quand on revient, justement, où on a eu un point de vue complètement différent sur les choses, parce qu'on est parti très loin et que rien ne se passe de la même manière. Et quand on revient, on se rend compte qu'il y a un décalage, quoi. Oui, qu'il y a des choses qu'on fait par habitude et qui n'ont aucun sens. Et en revenant, on essaye de changer tout ça.
Et l'Iran, vous ne l'avez pas choisi par hasard, Marion Poussier, vous connaissiez, vous étiez déjà...
Moi, j'étais allée déjà 2 fois en Iran.
Quand vous étiez partie, ça s'appelait la libre circulation des désirs, le projet. Oui. Et ce n'était pas que l'Iran, c'était aussi le Liban, Israël.
C'est
ça. Et c'était plutôt un âge, c'était autour de 25 ans, c'est ça, l'âge que
ça
vous...
Ça tournait autour de la vingtaine et l'idée qui était peut-être un petit peu naïve à l'époque, c'était que... Moi, en tant que Française, je pouvais aller au Liban, je pouvais aller en Iran, je pouvais aller en Israël, mais un Iranien ne peut pas aller en Israël, un Libanais ne peut pas non plus aller en Israël. C'est des frontières qui sont infranchissables pour eux, et ce qui est paradoxal, puisque justement, quand on a 20 ans, on a envie de voyager, de rencontrer les autres. Et donc, j'ai fait des photos uniquement de nuit, où j'ai effacé tous les repères géographiques, ce qui faisait qu'on ne savait plus où on était. Et du coup, ça mélangeait un peu les uns les autres, puisque c'est aussi justement un âge où il y a cette idée de désir, de se mélanger, de se toucher, de se rencontrer.
Et justement, qu'est-ce que vous aviez découvert à ce moment-là de l'Iran que vous ne soupçonniez peut-être pas?
La première fois que j'étais en Iran, absolument tous mes clichés sont tombés par terre du jour où j'ai atterri à l'aéroport. Quoi. C'est, pour moi, c'était une ville en noir et blanc et j'ai découvert qu'elle était pleine de couleurs, pleine de vie, que Les rues étaient remplies de monde jusqu'à 2h du matin, de jeunes dans les rues. Enfin, tous les clichés sont tombés les uns après les autres.
منی دلم منی قرص خورد دل یار ندارم منی دل آسور قدی باور نکردم
Vous parlez du Polaroid et de l'image de votre fille Bonnie au tout début. Il y a beaucoup d'autres Polaroids que vous avez réalisés, où souvent il y a une... Vous parlez de la campagne, il y a souvent le végétal, la nature qui est là, l'enfant, la lumière. Qu'est-ce que vous vouliez attraper avec ces Polaroids ?
Ben, l'idée de départ, c'était de ne pas avoir d'idée, c'est-à-dire de ne pas se dire « allez, je vais en Iran, je vais aller faire un travail là-dessus, un reportage là-dessus », mais plus justement de se remettre à hauteur d'enfant et d'essayer de tout voir comme si on avait 5-6 ans et d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne regarde pas toujours, qu'on ne photographie pas toujours. Et pour ça, ben, j'ai essayé déjà d'être attentive, d'observer sur quoi se portait leur attention. Et puis j'avais emporté des appareils que j'utilise pas d'habitude, une chambre photographique avec laquelle j'ai fait beaucoup de paysages, ce que je fais assez rarement, un Polaroid avec lequel je faisais des petites expériences que je pouvais voir tout de suite, puisqu'avec les autres appareils il faut attendre le retour pour voir ce que ça va donner. Et donc avec le Polaroid, on vivait beaucoup dans la nature, on dormait vraiment au grand air tout le temps, et donc j'essayais de capter ça, et puis en parallèle j'essayais aussi de pénétrer l'univers de l'enfance et de travailler sur cette question de l'imaginaire, quel monde on se fait quand on passe son temps dans la nature à 6 ans.
Et toi Paula, t'as fait quelques dessins, enfin beaucoup de dessins,
oui,
en Iran. Tu peux en attraper un ou deux que tu t'avais envie de nous raconter ?
De quoi ?
Les dessins qui sont à côté de toi.
Là, c'est la mer, je l'ai fait un jour, c'est pas grave.
Mais est-ce que t'as joué au cow-boy ?
Non.
Comment ça, non ?
Pas vrai.
T'as pas joué au cow-boy ?
Enfin, j'ai vraiment...
Elle travaillait, elle jouait pas.
En fait, mon papa, il m'a amené sur une montagne qui était très dangereuse. Il m'a porté, et j'ai failli tomber. Enfin, j'avais hyper peur. Il m'accrochait beaucoup à lui. Et c'était juste pour faire son film. Et en fait, j'ai joué un rôle. Et après, lui, il jouait le cow-boy. Il avait un faux pistolet et des habits de cow-boy. et il était sur la montagne. Et avec son pistolet, il avait fait pour de faux de me tuer. Hein. Et donc, j'ai dû fermer les yeux et j'ai dû rester allongée par terre.
Vous avez essayé, Laurent Krief, de tuer Paula pour de faux, habillé en cow-boy.
Oui, c'est ça. C'est...
Habillé en cow-boy avec un gros pistolet, un jean, des bottes et un poncho et un chapeau.
Tout ça pour un western.
Oui, ouais, bah, l'idée de départ, il y a cette idée d'émancipation chez l'enfance. Et au final, rapidement... L'enfance fait un retour en fait sur moi, quoi, mon enfance, le western. Et du coup, finalement, c'était un peu moi l'enfant parfois qui joue au cow-boy. Et pour s'émanciper de sa famille, on arrive à tuer les membres de sa famille, dont sa fille. Bon, voilà, bon, c'est des images, des jeux. Bon, c'est vrai, quand on regarde les livres photos d'Abbas Kiarostami ou quelques films iraniens, on s'aperçoit très vite que finalement les paysages iraniens sont très très proches de l'univers du Far West, quoi. Donc, quitte à faire un film, on essaie toujours d'y mettre un peu des choses qui donnent un goût de sucre, quoi, quelque chose un peu plaisante, travailler le genre. En tout cas, le western, c'était c'est assez facile, assez motivant et ça peut entraîner tout un univers et en tout cas suffisamment moteur pour faire un film.
Et ça entraînait un peu de fiction aussi dans votre vie quotidienne.
Oui.
Des costumes en tout cas.
Des costumes, donc c'était assez drôle, oui, beaucoup d'armes à feu, hein, des fosses, mais proches des répliques, quoi. Donc bon, les filles sont bien amusées avec ça. Elles avaient aussi des jeux, on avait pensé à ça, des jeux en bois de Far West, quoi, avec des saloons, des diligences, des petites figurines, quoi.
Marion Poussier, vous étiez entrée en immersion dans des familles pour les prendre en photo les liens qu'ils avaient. C'était une série qui s'appelait Famille. Mm-hmm. Et là, vous vous étiez posé la question justement de la vie en famille, enfin, quel lien on a et qu'est-ce qu'on fait quand justement on fait rien ou pas grand-chose, enfin, juste quand on vit ensemble dans un même endroit. Mm-hmm. Est-ce que ça a résonné avec votre façon de vivre
Alors, c'est sûr que quand je faisais le projet famille, j'avais...
Parce que vous viviez avec les familles?
Oui, mais je vivais avec eux, mais je ne faisais pas partie de leur famille, donc j'avais un regard... distance qui est naturelle, qui était assez facile à mettre en place. Vivre et photographier sa famille, c'est autre chose. J'ai toujours photographié mes enfants, mais comme tout le monde, pour enregistrer les souvenirs. Et là, la photographie était plus pour expérimenter des choses ensemble. Et pour ça, le Polaroid, c'était pratique, parce qu'on voyait tout de suite avec quoi on s'amusait. Et puis, moi, je voulais photographier ma famille, mais pas tant dans le quotidien, même si je l'ai fait, mais plus pour des souvenirs. L'idée, c'était plus, oui, de me pencher vers... d'essayer de s'inventer notre propre monde, en fait. Donc, d'aller aussi vers la fiction, vers... puisqu'on a le temps, qu'on est ensemble, qu'on a des feutres, qu'on a des crayons, qu'on a des appareils photo, est-ce qu'on pourrait pas... créer notre propre monde à nous, s'inventer des choses et puis voir ce que tout ça va donner. Et après, je pense qu'il y aura un deuxième temps, justement, quand on récupérera les images.
Parce que là, vous n'avez pas tout révélé, donc il y a des images.
J'ai quasiment rien vu là pour le moment. De tout ce que j'ai fait, je me souviens à peine des premières photos. Et je pense que quand je vais les récupérer, j'ai pas forcément envie de venir travailler tout de suite dessus. J'ai envie de laisser encore un délai, un temps assez long. Et de revenir dessus avec mes filles et de... Voilà, qu'est-ce qu'on se souvient de ce voyage-là? Qu'est-ce que nous disent les images par rapport aux souvenirs qu'on en a? J'aimerais sûrement aussi retravailler sur les images, me servir des dessins qu'on a faits, faire des interventions sur les images. J'ai envie encore d'essayer des choses, voilà. C'est un projet ouvert.
Pierre Sfaccini, vous aussi vous prenez des photos à Palmarola?
Oui. Je suis plutôt un peintre qui prend des photos, donc je rougis quand les gens disent vous êtes photographe. Je suis pas photographe, mais j'adore prendre des photos et c'est drôle parce que en écoutant ces conversations, il y a pas mal de parallèles avec mon monde, à la fois de famille, parce que en fait j'ai découvert la France avec ma femme en combi Volkswagen. Et on est tombé sur les Cévennes, on allait visiter l'Espagne, on pensait vivre en Espagne et on a passé le corniche des Cévennes et on s'est arrêté là en fait. Et c'est drôle parce que sur la pochette de mon disque, il y a une photo de mon fils, j'ai deux fils, et en fait c'est une photo, c'est un peu ce que vous disiez en fait, c'est-à-dire c'est la relation qu'a l'enfant avec la lumière. Et l'enfant va naturellement vers la lumière. Et en fait, c'est comme un guide, en fait. Et donc, le titre de mon album, c'est I Dreamed an Island. J'ai rêvé une île. Et en fait, c'est une sorte de nostalgie de l'adulte, de redécouvrir une sorte de luminosité innocente, à la fois personnelle, mais en même temps, dans ce cas-là, liée aussi à une certaine vision utopique de l'histoire. Peut-être un moment dans l'histoire, comme il y en a eu entre les guerres, où les gens arrivaient à vivre ensemble et à partager.
J'ai montré la photo de l'album Pierre Sfaccini à Marion Poussier. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que ça fait très écho à la photo qu'on t'écrivait de Bonnie dans la lumière.
Ouais. Et je ne sais plus tout à l'heure si c'est qui a parlé de pays imaginaire, mais quand je parle de ce projet, pour le moment, je l'appelle comme ça, le pays imaginaire, parce que ça ne va pas raconter l'Iran, ça ne va pas raconter les pays qu'on a traversés, ça va raconter quelque chose de complètement imaginaire.
Et Pierre Sfaccini, pour écrire cet album, vous parlez de justement la Sicile médiévale et l'Espagne à ce moment-là, mais à partir de là, c'est aussi une utopie un peu musicale que vous avez imaginée.
En fait, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le point de départ. Je me suis un peu plongé dans l'histoire.
C'est votre frère qui vous avait parlé de ce
Mon frère qui est écrivain, Ben Faccini, oui, qui m'a parlé. Il m'a dit, mais il faut absolument que tu lises ce livre de cet historien anglais qui s'appelle John Julius Norwich, qui a écrit beaucoup sur la Sicile médiévale, et surtout la période normande du XIIe siècle. Et je me suis plongé là-dedans et c'était absolument fascinant. C'est une période dont on ne parle pas beaucoup, mais moi, elle, dans son métissage, dans ce brassage de culture, dans ce mélange de langues qu'on entendait à la cour de Palerme, entre le grec, le latin, l'arabe, la langue d'oc, enfin, pour moi, c'est tout ce qu'on est un peu en train de mettre en danger aujourd'hui. Par rapport au discours, je dirais, de droite, à sorte de montée des xénophobies, ce qui est en train de se passer en Europe, ça va dans le sens inverse. Et donc, parce que je ne suis pas politicien, mais que je voulais quand même avoir un angle politique, quelque part personnel, par l'aspect personnel, le regard personnel, eh bien, je me suis tourné aussi vers cette île utopique, cette île imaginée, mais qui est néanmoins une grande connexion avec le passé, avec qui nous sommes. C'est-à-dire, je crois vraiment que nous sommes aussi ça. C'est-à-dire, on regarde l'enfant dans la lumière et on peut soit dire « je suis toujours ça, je vais aller vers ça » ou on regarde l'enfant dans la lumière et on dit « ah, le bon vieux temps ». Et là, on accepte qu'on ait perdu quelque chose. Pour moi, étant artiste, on ne peut pas accepter de perdre la lumière. C'est impossible. On perd la lumière, on reste en silence.
Tout le monde a ce désir de vouloir donner de soi une certaine image. Mais c'en est une toute autre qui apparaît, et c'est cela que les gens remarquent. Vous voyez quelqu'un dans la rue, et ce que vous remarquez essentiellement chez lui, c'est la faille. C'est déjà extraordinaire que nous possédions chacun nos particularités. Et non content de celles qui nous ont été données, nous en créons d'autres. Toute notre attitude est comme un signal donné au monde pour qu'il nous considère d'une certaine façon. Mais il y a un monde entre ce que vous voulez que les gens pensent de vous et ce que vous ne pouvez pas les empêcher de penser. Et cela, je l'ai appelé le point de rupture entre l'intention et les faits. Je veux dire que si vous observez la réalité d'assez près, si d'une façon ou d'une autre vous la découvrez vraiment, la réalité devient fantastique.
C'était les mots de Diane Arbus. Pour continuer, on a ouvert l'émission avec l'image de Bonnie, 3 ans et demi, qui jouait dans la lumière en Iran. Là, on est sur l'île de Palmarola, entre Rome et Naples. Et c'est Sami, le fils de Pierre Sfaccini, qui est perdu dans ses pensées. Le soleil est bas, c'est une silhouette prise dans la lumière devant la mer. Et c'est la pochette de l'album. Son île à lui, c'est la Grande-Bretagne. Mais comme il est aussi un peu italien, il est descendu vers le sud. Pierre Sfaccini s'est inspiré du récit donc d'un âge d'or, la Sicile, 12e siècle, pour imaginer une utopie musicale, un pays imaginaire entre l'Orient, l'Occident, et il nous offre un premier morceau en studio.
Je suis Pierre Sfaccini et vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Dust and every on the earth we choked. Vengeance comes with a savage fist, cold as metal and a morning mist. Drawn by night, killer by day, drawn by night, let the bombs away. Drawn by night, killer by day, drawn by night, let the bombs away. To the west.
search for a prayer, but the words won't come. Won't stop trying, long as blood still runs. Drum by night, killer by day. Drum by night, let the bombs away. Drum by night, killer by day. Drum by night, let the bombs away.
T'es en train de dessiner ta cour de récréation?
Oui.
Qu'est-ce que t'as dessiné?
Les enfants qui jouent au ballon, des enfants qui jouent à s'attraper. Et là, j'étais en train de dessiner des arbres. Mais là, je vais dessiner d'autres enfants.
Et toi, t'es où, là?
T'es en train de dessiner.
Tu t'es pas dessiné dans la cour de récré?
Pas encore.
Toi, tu fais quoi pendant la récréation?
Ben, je joue...
À quoi?
Je joue beaucoup à attraper les garçons.
C'est facile?
Oui. Enfin, pas vraiment beaucoup.
Et ça, c'est ton jeu préféré, attraper les garçons?
Oui. Et je le fais avec plein de copines.
Elles s'appellent comment?
Il y a Sophia, il y a Aminata, il y a aussi un garçon qui nous aide à attraper les autres garçons. C'est Robinson.
Si j'ai décidé de faire récréation, c'est aussi parce que j'accompagnais ma fille. D'abord, la première fois que j'ai vu cette cour et que je me suis dit que ma fille allait se retrouver là-dedans, je me suis dit, si elle s'en sort, c'est bon pour la vie, quoi. Et puis, et je me disais, mais toutes les histoires les plus terribles sont là. Et en même temps, c'est un lieu, comme c'est comme le théâtre, c'est-à-dire que c'est un lieu où les enfants, ils essayent la vie. Comme on essaye des masques, quoi. Ils essayent pour voir comment ça marche et pour voir comment ils vont faire. Et c'est parce que personne n'y va qu'on ne le voit pas. Où les enfants essayent, d'abord, c'est comme des scénaristes, ils essayent de voir si une histoire marche entre eux. Qu'est-ce qui va se nouer, comment ça va marcher, est-ce que quelque chose va marcher. Et si on commence avec la prison et que ça marche pas et qu'on passe au coiffeur ou le contraire, bah tant pis, parce que ce qu'il faut, c'est que l'histoire marche. Les gens croient, ils me disent « t'as planté ta caméra ». Non, on plante rien du tout, quoi. Il s'agit de mettre en scène en direct, c'est-à-dire de raconter ce qu'on comprend. N'importe qui irait filmer dans la cour, filmerait une autre histoire. C'est évidemment ce que je comprenais. Et donc j'ai compris aussi des choses sur comment... filmer concrètement, c'est-à-dire cadrer et monter sans couper, faire des plans comme si je les voyais comme le premier spectateur.
C'était la voix de Claire Simon qui parlait de son film Récréation. Marion Poussier, vous aviez choisi aussi de passer du temps en récréation, en cours de récréation, et d'observer ce qui s'y jouait. Pourquoi vous avez eu envie de justement rentrer dans ces histoires-là ?
Déjà, j'essaye de plus trop regarder les images maintenant que ma fille vient de rentrer en CP, parce que
ça me fait peur.
Un peu. J'avais fait un premier travail qui s'appelait Un été, qui se passait dans des colonies de vacances. Et
là, c'était des ados.
C'était des adolescents, et on entendait avant Diane Arbus qui parlait du masque et de l'image qu'on essaye de donner de soi. C'était très intéressant. Et chez les adolescents, il y a ça aussi, cette mise en scène de soi-même, parce qu'on est toujours persuadé qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous observer, même s'il n'y a pas de photographe, il y a des copains qui regardent, et on est en constante représentation et surveille comment on est. Et je voulais savoir justement si, à partir de quand ça commençait, cette chose-là. Est-ce que déjà dans la cour de récré, il y avait ce sentiment d'enfiler un rôle, un masque? Et donc j'ai passé du temps dans des cours de récré, et c'était très surprenant. Et effectivement, je pense que les quelques adultes qui sont dans la cour de récré profitent aussi de leur récréation et observent à peine ce qui se passe. Et quand je montrais les images au directeur, il disait « Ah bon, mais il se passe ça dans ma cour de récréation ?» Et c'est effectivement un petit monde qui se joue à l'image de celui des adultes. Et il y a des histoires dans tous les coins, et ils reproduisent... Enfin, comme le dit bien Claire Simon, ils tentent des histoires pour voir si ça marche, quoi. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu, et puis ils se mettent complètement dans le rôle. Et la récré est pourtant très courte, mais tout de suite, ils partent dans des milliers d'histoires.
Et on voit que c'est
fascinant.
C'est une tension aussi entre les groupes et la solitude, parce que ouais. Dès qu'on est un peu à l'écart, on fait plus partie de l'histoire. Et,
c'est ça.
Et on voit que c'est comme un peu des petits complots pour.
C'est des petits complots, des petits groupes, et à la fois qui se font et qui se défont. Des fois, au sein d'une même récréation qui dure un quart d'heure, il y a quatre copines qui vont en exclure une, mais avant la fin de la récréation, elle sera revenue dans le groupe et ce sera une autre qui sera exclue. C'est tout le temps ça, en fait. Ça rentre.
Et vous
ça
sort. Aviez quelle place?
Moi, j'avais une place la plus discrète possible. J'avais un appareil 6-6. Et alors, au début, ça faisait rigoler tout le monde que je sois là au milieu de la récré, parce que j'essayais de les suivre. Mais alors, ils courent dans tous les sens. C'était assez... fallait suivre. Et puis, j'avais un appareil qui m'a bien aidée, puisque le 6-6 permet d'avoir une visée qui fait qu'on a l'impression que je regarde par terre. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment l'impression que je les photographiais. Un jour, il y avait deux petits gamins, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais deux petits gamins que j'étais en train de prendre en photo, j'étais assez proche d'eux, peut-être à un mètre, et il y en a un qui dit à l'autre « Mais t'as remarqué qu'ils photographient tout le temps le sol ?» C'était assez amusant.
Donc ils n'étaient pas conscients de...
Non, alors après, je leur ai pas dit tout de suite, parce que sinon je n'aurais plus rien pu faire. Mais après, on a fait des petits ateliers de photos, justement, avec les élèves de ces classes-là. Et puis, je leur ai montré l'appareil. On a travaillé ensemble avec l'appareil photo.
Il y avait une phrase qui était dans punaisée dans votre camping-car, non ?
Mm-hmm.
Sur l'enfance.
Ouais, c'est une phrase rapportée.
Jean Genet.
Ouais.
Ah, je crois que je l'ai. Une phrase de Jean Genet... Créer, c'est toujours parler de l'enfance. Ce serait le seul vrai temps présent qui n'a pas de conscience ni d'hier ni de demain. Le seul temps plein qui ne se fait pas croire à une ligne ou une chronologie. Et ça, vous l'aviez affiché dans le camping-car.
C'était le petit leitmotiv, ouais.
Ça fait aussi partie de ce dont vous parlez, une conscience pleine du présent et aussi pas forcément une conscience permanente du fait qu'on est regardé. Juste vivre.
Ouais. D'autant plus que dans le voyage. Enfin, on avait une liberté totale d'être, de faire, de...
Quand on a préparé l'émission, vous m'avez envoyé un mot en disant « Je sais pas, ça va être pas très facile, parce que moi, j'aime pas vraiment parler, je suis assez solitaire, silencieuse quand je photographie, dans mon travail. » Vous disiez aussi que le monde actuel vous donnait plus mal à la tête et envie de vous taire qu'autre chose. Quand vous partez, par exemple, en colonie de vacances avec ces adolescents, comment vous vous approchez d'eux ?
Justement, très timidement. Et je pense que c'est ça qui fait que ça passe. C'est-à-dire que je ne m'approche pas trop. Je sais garder une certaine distance. Je sais où mettre la ligne aussi de la pudeur à ne pas franchir. Je sais à quel moment je les gêne et où je ne les gêne pas. Et du coup, ça se fait tout doucement, tacitement entre eux et moi. Et je parle assez peu avec eux, parce que j'ai pas non plus qu'il y ait d'interaction. Je veux que quand je photographie, il n'y ait pas d'interaction entre eux et moi, sinon ça rompt tout. Et puis en revanche, dans des temps où j'ai plus l'appareil, bah, tout doucement, je me raconte et je leur dis un peu ce que je fais. Et puis, avec le temps, comme ça, on apprend à se connaître et à s'accepter chacun dans notre position.
Et vous dites, j'approche par le corps, ou en tout cas, j'approche les corps qui sont souvent aussi en attente ou les uns contre les autres. C'est souvent photographier le lien que les corps ont entre eux.
Oui, parce que pour moi, le corps dit tout, quoi. Que, spécialement chez les adolescents, mais pas que chez les adolescents. Quand il y a cette idée justement de masque ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre que ce qu'on est, ben finalement le corps trahit ça. Et finalement, en mettant ce masque-là, je trouve qu'on arrive justement à comprendre qui est la personne, parce que c'est très facile de voir derrière le masque, parce que les détails du corps vont donner trop de choses.
T'as fini de dessiner la récréation, Paula ? T'as ajouté quoi ?
Les porte-manteaux, après la bibliothèque. Oh, j'ai oublié les toilettes. Et aussi la cantine.
Allez, comme garçon, tu te plais ?
Bah, il y a Nino, là.
C'est vrai.
Mais...
Je sais pas, il est mieux comment physiquement ?
Non, mais il est pas...
Je veux dire, il y a plus beau, quoi.
Le soir, sur... Bon, allez, on va dire, je rentre à 17h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Bon, je vais pas faire le calcul. Ouais, ça fait 6h. Sur 6h, je dois faire une demi-heure de devoir.
Ouais.
Une demi-heure pour manger. Et le reste, bah, je te laisse deviner.
Tard. Moi, là-bas, en fait, j'en fais pas tout le temps.
Ouais.
Je fais quand même des pauses pour autre chose, quand même.
Oui, bah ouais.
En fait, moi, les trucs que je pose principalement à la basse, c'est pas apprendre plein de trucs, des solos, tout ça, c'est vraiment... En fait, je bosse vraiment, le truc le plus important pour moi, c'est le rythme. Donc du coup, je bosse quasiment... Quand je prends la basse, le premier truc que je bosse, c'est le rythme.
Regarde.
Oui, mais solo, y a pas de montée. Et après, tu refais...
Non mais c'est... T'es d'accord ? Avant un gros solo. Et bien une montée.
L'adolescence, vous ne l'avez pas quittée tout à fait, Marion Poussier. Ça s'appelle 15 ans et c'est une vingtaine de vidéos qui sont des plans-séquences sur des situations et des discussions entre adolescents, souvent soit entre filles, soit entre garçons, à part la répète de rock, là, à la fin, où tous chantent ensemble. Et alors souvent, ils discutent d'eyeliner, de jogging, de comment ils vont s'habiller, de qui ils vont rencontrer, de ce qu'ils font après les cours... de qui va embrasser qui, de qui a fait quoi avec qui. Comment vous avez... Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en scène ? Ou est-ce qu'encore une fois, vous... Parce qu'on a l'impression, parfois, que... Presque que les discussions sont écrites tellement c'est...
Alors non, les discussions sont jamais écrites.
Pas écrites, mais provoquées.
Il y a différents cas de figure. C'est-à-dire que le film, c'est vraiment très différent de l'image. Autant quand je photographiais et qu'ils se racontaient des choses et que je sentais une gêne, une timidité, je les rassurais en leur disant « Mais vous savez, mon appareil, il n'enregistre pas ce que vous racontez. Hein. Personne n'entendra rien. » Donc bon, il n'y avait pas de problème. Là, c'était l'inverse. Et, vous savez, j'entends tout ce que vous dites. Donc c'était beaucoup plus difficile de filmer des choses sur le vif. Donc ce qui se passait, c'est que je passais beaucoup de temps à observer les groupes, qui étaient avec qui étaient copines avec qui, à quel moment ils se retrouvaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble le week-end. Et je leur disais, bon, bah voilà, toi et toi, puisque vous avez l'air d'être tout le temps ensemble le week-end, est-ce que ça vous dit, on se retrouve un week-end ? Et puis au début, bah, j'ai laissé un peu faire ce qu'elle voulait, je m'installais tranquillement, et en fait, elle-même installait la situation, et je me mettais à la filmer, ça durait un long moment. Et puis, bah, petit à petit, j'arrivais à... Parce que c'était donc des plans séquences, mais c'est aussi des plans fixes. L'idée, c'était aussi de partir de l'image, de faire une image photographique, mais qui s'anime, qui bouge.
Et parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est un baiser. Parfois, c'est
oui,
un...
Oui, des fois, c'est juste
quelque chose qui passe. ou parfois, c'est un jeune qui fume, ouais. Assis dans un coin.
L'idée, c'était de dresser 20 tableaux, mais j'aurais pu en faire 40, 50, et qui, ensemble... dessine une sorte de portrait de l'adolescence de 15 ans. Et je suis retournée dans le collège où j'étais. Et c'est là que j'ai ciblé un peu les jeunes que je voulais rencontrer et filmer.
Et vous avez quelle trace de ce moment-là, de cette adolescence, de la vôtre ?
Je pense grosso modo comme tous les adolescents, avec des tas de complexes, mais des belles amitiés, des préoccupations essentiellement tournées vers l'amour et l'amitié. Ouais, je pense plus ou moins comme tous les adolescents.
Et ça, c'est ce que vous allez chercher, parce qu'il y a une série aussi qui s'appelle Love, et qui une série photographique avec des portraits, des jeunes couples, enfin la naissance un peu de l'amour et la façon qui s'exprime quand on est adolescent.
Ouais, je pense que c'est une question essentielle qu'on a à cet âge-là et qui est la base de notre construction, quoi. Comment notre rapport aux autres, est-ce qu'on fait partie d'un groupe ou pas d'un groupe, comment on est perçu à 15 ans. Enfin, je pense que ça détermine vraiment tout un tas d'autres choses de notre vie plus tard, les rapports qu'on a entre nous à l'adolescence et les rapports amoureux particulièrement.
Et c'est pas forcément des choses qu'on expose quand on a 15 ans, justement.
Si. Souvent, si. J'ai l'impression que quand on a 15 ans, on montre tout. On s'embrasse n'importe où, sur les escalators du métro. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de gêne, justement, quand on a 15 ans. Ça me plaît.
Marion Poussier, vous avez retrouvé, vous, des traces d'un amour qui date un peu plus, qui est celui de votre grand-mère et votre grand-père. À vous. Et vous avez retrouvé des cartes postales, des mots d'amour. Comment vous les avez retrouvées ?
Dans une boîte chez ma mère. C'est ma mère qui m'a ouvert ça un jour et je me suis dit, mais quel trésor !
Et ça date de quand, à peu près ?
Ça date d'avant la guerre. Ça commence en 1937, je pense, quand ils se rencontrent. Et la dernière que j'ai trouvée est datée de 1943, mais peut-être que ça va encore un petit peu plus loin.
Et à chaque fois, c'est une carte avec une image et un mot.
Voilà. D'un côté, souvent les cartes qu'envoie ma grand-mère sont des cartes postales sur lesquelles il y a des bouquets de fleurs, et celles qu'envoie mon grand-père sont des cartes postales sur lesquelles il y a des couples photographiés en pied qui s'embrassent ou qui regardent l'appareil devant un paysage. Et c'est quand j'ai découvert ces cartes postales que j'ai voulu commencer le projet dont on parlait juste avant, qui s'appelle Love, où je m'intéressais à l'amour à 15-16 ans. Et j'ai commencé une série de photographies où, du coup, j'ai demandé à des adolescents, des couples d'adolescents, alors des couples mais aussi des amis, des couples d'amis ou des couples amoureux, de poser devant moi. Donc là, j'ai vraiment pris une chambre photographique. Il ne s'agissait plus d'aller chercher une image, mais vraiment de faire une image posée d'un baiser ou d'une scène d'amour, enfin d'amour, d'amoureux. À la manière un peu de ces cartes postales, et c'est un projet en cours que j'ai pas terminé, et j'aimerais aussi travailler sur l'idée de comment aujourd'hui on se déclare son amour, on se raconte son amour, et mettre ça en parallèle avec ces cartes postales où on se décrivait son amour sûrement d'une toute autre manière.
Vous avez choisi quelques extraits
ouais.
Pour nous lire, donc Marion Poussier, vous allez lire les mots de votre grand-mère et Laurent Krief va jouer le grand-père.
Donc c'est mon grand-père qui va commencer.
Fougères, le 11 avril 1937. Chère demoiselle, je vous envoie ces fleurs en gage d'une amitié sincère et pour que ce souvenir vous paraisse plus doux, j'ai dit à chaque fleur un mot tendre pour vous. En terminant, si vous me permettez, je vous embrasse bien tendrement. Un ami qui pense bien à vous, Morel.
Bien cher petit Joseph, c'est de grande joie que vers vous ce matin j'envoie cette petite carte afin qu'elle vous dise encore souvent bien des douces choses de mon cœur. Je dois d'abord vous dire que j'ai fait un très bon voyage de retour. J'étais chez nous une demi-heure après que nous nous sommes quittés. Quelle bonne journée nous avons passée. Malheureusement, le temps passe toujours trop vite quand nous sommes tous les deux. Cher petit bien-aimé, j'espère que vous avez fait vous aussi un bon voyage par le car et il faisait bon pour vous rendre chez vos patrons. J'ai hâte à présent de recevoir une petite lettre. Écrivez à votre maman aussi, vous lui direz bonjour pour moi. Au premier de l'an, j'aimerais bien lui envoyer une petite carte. Vous me direz son adresse, si vous voulez bien, quand vous m'écrirez. Elle ne me connaît pas, mais je suppose que cela lui ferait bien plaisir quand même. Donnez-moi votre avis, je serai contente. À présent, chère petite amie, nous allons reprendre le travail, heureux de notre petite rencontre. Il faisait meilleur temps que ce matin. La pluie va tomber, probablement, le temps est très couvert. Je vous enverrai une lettre vendredi, j'aurai encore beaucoup à vous dire. En attendant de vos nouvelles, permettez, cher petit Joseph, que j'aille dans vos bras, déposer sur vos lèvres mes plus tendres baisers. Votre petite Anna, qui vous aime beaucoup, doux souvenir.
On va écouter un nouveau morceau de Pierce Falcini et entrer dans son pays imaginaire. Ça s'appelle « Oiseau ».
Mais personne ne veut nous dire et tout.
Voilà.
Ils ont dû se dire, ça reste
super secret.
Mais déjà, c'est obligé, Lukman, il a fait quelque chose avec
lui. Voilà, c'est sûr.
Ensuite, Rémi, il a fait autre chose avec Victoria.
Non,
je sais pas.
C'est bah, pas autre chose, non. Genre, mais ils se sont embrassés toute la soirée, quoi.
Oui, bah ils sont roulés.
Et Colin, Clara.
Ah, je sais pas.
Ah,
je pense pas. Non, mais non, parce que Colin, il avait trop le seum pour.
Ouais, il avait trop le seum pour Victoria. Hein.
Ouais, donc non.
Parce que Clara, déjà, elle a pas bu.
Ouais, Clara, c'était la seule qui était pas.
Elle a dû tourner tout le temps sur les réseaux,
sur Snapchat. Lukman, il a des yeux de biche. Hein.
Marion Poussier. De la cour de récréation à la colonie de vacances, si on fait un grand écart, il y a la maison de retraite, un très grand écart, où vous avez aussi passé du temps là pour approcher plus des corps qui vieillissent forcément, qui se dérobent, qui vont pas exactement ou sont pas exactement comme on aimerait qu'ils soient. Qu'est-ce que ça a été d'être dans cet endroit-là, vous qui aviez plutôt investi des lieux du début de la vie?
Des lieux du début de la vie, mais j'avais aussi toujours été dans des lieux de vie en collectivité, que ce soit la colonie de vacances ou la cour de récréation. La famille, c'était un peu différent, mais c'est aussi un lieu de vie collectif. Et dans la maison de retraite, la question que je me posais, c'était de savoir justement si cette question de l'image qu'on cherche à donner de soi, de ce masque et de ce contrôle de soi, est-ce que quand on est en maison de retraite, qu'on a 90 ans, souvent, est-ce que ça veut encore dire quelque chose ou pas ? Et bien sûr que non, quoi, ça veut plus rien dire, justement, parce que déjà parce que le corps ne répond pas forcément à la tête, tout n'est pas coordonné. C'est un lieu de collectivité à la fois. J'ai vu beaucoup de solitude, des gens qui sont tout seuls et qui. Grande solitude, grande tristesse. C'est très dur.
Et là, c'est aussi l'idée de, en tout cas, avoir accès à des corps qui sont moins visibles que ceux des adolescents ou qui s'exposent.
Ah oui, là, pour le coup.
Qu'on oublie finalement si on ne va pas dans ces endroits-là.
Ouais, ouais. Surtout que la maison de retraite, autrefois, était pas. Fonctionnait pas comme ça, c'est-à-dire qu'on là aujourd'hui la maison de retraite c'est vraiment le dernier recours quand on peut plus faire autre chose et du coup c'est des gens qui arrivent très 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 âgés, souvent malades, et alors qu'avant il y avait une vraie vie dans une maison de retraite, là aujourd'hui c'est un mouroir quoi, et effectivement c'est des gens qu'on ne voit plus et qui pourtant pour avoir passé du temps avec eux dans leur chambre encore plein d'histoires à raconter, de choses à dire, d'envie aussi.
On commençait l'émission en parlant du regard, peut-être parfois à renouveler ou à remettre à zéro pour regarder comme pour la première fois. Il y a aussi cette idée dans votre travail, je crois que vous aviez monté une association qui s'appelait Regard d'ailleurs, mm-hmm. Regard d'ailleurs, ou dans l'idée de aussi faire de la photographie pour rendre visible certains visages, certaines problématiques dans la société, mm-hmm. Est-ce que ça c'est important aussi de se dire j'ai ma part ça permettra peut-être une modification aussi de la société.
Je sais pas si ça permettra une modification de quoi que ce soit, mais tout à l'heure on parlait d'un petit mot là où je disais que le monde me faisait mal à la tête et que ça me donnait plus envie de me taire que l'inverse, mais à la fois je pense que c'est plus que jamais le moment de l'ouvrir quoi aujourd'hui, et donc effectivement quoi, regarder ailleurs, on montre toujours les mêmes choses et sûrement pas les plus intéressantes, et je pense que c'est important de regarder ailleurs et de montrer ce qu'il y a ailleurs, même si ça touche une petite partie de personne, il faut continuer dans ce sens-là. Oui.
Pierre Sfaccini, j'avais envie de terminer l'émission en lisant un poème. Alors vous auriez pu le faire en arabe, mais ça va être difficile. C'est un poème que vous aviez trouvé.
C'est un poème que je suis en train d'essayer d'apprendre à le chanter au moins en arabe, mais je ne suis pas encore prêt à le faire. Donc,
qui est dans une chanson.
En traduction, le poème s'appelle « Ma Sicile ». Et le poète est Ibn Hamdis. Souvenir douloureux, l'affliction attisant le souvenir. J'ai songé à la Sicile. Déserte est désormais la demeure où l'on pouvait vivre jeune, elle qui était peuplée de gracieuses personnes. Si on m'a fait sortir du paradis, je puis au moins en relater les faits. N'eût été le goût salé des larmes, j'aurais pris mes pleurs pour ces rivières. À 20 ans, j'ai ri d'une passion et j'ai pleuré d'avoir perdu son fait à 60. Qu'aucun péché ne vous paraisse grand. Le ciel est encore là pour l'absoudre.
Load up on guns. Bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard. Self-assured, I know a dirty word. Hello.
On sera parti du départ du grand voyage qui vous fait dire je suis absent momentanément, pour arriver au grand voyage qui au retour vous fait répondre je vois mieux, je vois comme jamais. Pierce Falcini, il faudra guetter le nouveau disque. Il sort le 21 octobre, I Dreamed an Island. Et il sera en concert au Café de la Danse le 8 décembre, à la Philharmonie de Paris les 11 et 12 février. Avant la nuit, je dis merci à Cyril Baer, à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique. Merci à Jean-Louis Deloncle et Clotilde Thomas. Vous écoutez France Culture, il est déjà demain, à minuit, c'est l'heure des nuits. Ça sonne comme un départ pour nouveaux yeux, nouvelles oreilles. Vous vous réveillerez avec Émilie Chaudet, ce sera les petits matins. I'm worse at what I do best. And for this gift, I feel blessed. A little group has always